Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 60e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. On continue aujourd'hui en vous ramenant pour une dernière fois trois autres épisodes qu'on a grandement appréciés chez Hypercroissance en 2020. Avec des invités tout autant fascinants les uns que les autres, ça n'a pas été facile de sélectionner seulement 6 épisodes au total. Malgré tout, voici les trois derniers extraits qui ont grandement marqué notre imaginaire en 2020. On commence avec un passage de l'épisode 29 enregistré avec Martin Latulippe au beau milieu de la crise du COVID-19. Grand habitué des partenariats stratégiques, Martin nous raconte dans un extrait d'une dizaine de minutes la manière dont il opère afin de former des nouveaux partenariats afin de faire croître ses organisations.
Quand je suis arrivé dans le web, j'ai réalisé que le seul niveau de partenariat qui existait, c'était de l'affiliation, qui, on s'entend, est assez de base.
Ouais.
Alors moi, je me suis dit, OK, il y a ça, mais qu'est-ce qui se passerait si j'aidais mes partenaires avec leur next dream? Et si je faisais la même chose pour dire, lui, il essaie d'accomplir quoi? Elle essaie de réaliser quoi? Et à partir de là, ça devient une obsession de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mes ressources, dans mes contacts, dans mon savoir-faire, dans mes stratégies que je peux donner gratuitement, totalement, sans aucun attachement à ce partenaire-là potentiel pour le faire gagner. Et si jamais ça se solde dans un partenariat, tant mieux. Sinon, et ça, c'est une affaire super importante, Antoine.
Vas-y.
Moi, ça me rend heureux d'aider les gens. Tu comprends? Il y a plein de partenariats qui se sont pas soldés. Si tu me dis, Martin, oui, OK, tu avais 180 partenaires pour ton lancement de l'Académie Zéro Limite, OK, oui, mais il y en a 700 autres qui n'ont pas fait affaire avec moi. Je continue à leur donner de la valeur, je continue à les aider, je continue à prendre leur appel, sincèrement, parce que moi, je crois que générosité équivaut à prospérité. Ça fait longtemps que j'ai cette philosophie-là, ça fait longtemps que j'ai cette croyance-là dans la vie. Le plus que tu vibres à la générosité sincèrement en temps, en talent, en compétences, en argent, si tu as la possibilité, en contact, le plus que la vie, d'une façon extrêmement bizarre parfois, sous une forme dont tu ne t'y attends pas, va te ramener une forme de prospérité qui va te défoncer la tronche totalement, à laquelle tu t'attends pas parce que l'univers est plus grand que toi, la vie est plus grande que toi, tu sais pas les plans qu'ils ont en réserve. Mais moi, je pense que, regarde la nature, qui est-ce qui l'emporte? C'est les personnes qui s'aiment, et c'est les personnes qui cultivent. C'est eux les plus grands récoltes au monde. Donc, en tant qu'entrepreneur, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as semé? C'est quand la dernière fois que tu as essayé de réfléchir, quel est le terrain fertile? Une autre chose que les gens peuvent faire, Antoine, c'est être clair sur c'est qui ces partenaires-là. Moi, quand je suis arrivé sur le web, j'ai fait une stratégie qui s'enseigne depuis des années aux États-Unis qui s'appelle « Ta Dream 100 ». Dream 100.
Dream 100, ben oui.
Donc, ça veut dire que tu peux faire la même chose au niveau des partenariats, de dire, OK, qui sont les joueurs de mon industrie? Tu commences par ton industrie, mais pas que ton industrie. Okay? Tu commences par ton industrie. Qui possède l'audience de rêve devant laquelle je voudrais me retrouver? Qui possède déjà cette audience-là? Tu fais une liste. Par la suite, quel est leur next dream? Est-ce que je peux aider ces gens-là? Est-ce que j'ai une ressource? Est-ce que j'ai un contact? Sincèrement. Et avant de les aider, quelles sont les valeurs de ces partenaires-là? Parce que moi, je dis toujours, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Il y a trop de gens qui vont au lit pour un partenariat transactionnel. Finalement, ça fonctionnera pas. Par contre, si tu vas en relation, tu dis, wow, j'aime les valeurs, j'aime sa mission, j'aime son éthique, j'aime sa contribution, j'aime son message, j'aime ce qu'il représente comme compagnie. Ça veut dire que déjà là, OK, maintenant, mets le next dream en jeu et commence à donner de la valeur à cette personne-là. Et souvent, les gens, t'as raison, ils disent, ben, je sais pas par où commencer. Ne serait-ce que ça, ça serait fantastique. Le problème, c'est qu'ils veulent devenir partenaires avec tout le monde. Non. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, Il y a 18 leaders francophones sur le web. Il n'y en a pas 1000. Il y en a 18 que je vibre avec eux autres. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas bons. C'est pas que ce sont des mauvaises personnes. Je vibre pas avec eux autres. Donc, je porte même pas attention à ces gens-là. Pas par arrogance, pas par condescendance. C'est juste qu'ils sont pas sur ma hit list. Les 18, par contre, c'est OK, maintenant, je me roule les manches. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là, rentrer en relation, voir c'est quoi son next dream et commencer à bâtir une relation. Je pourrais te conter des histoires jusqu'à demain, Antoine, des trucs que j'ai faits. C'est des
trucs. Donne-nous-en une.
Ben, écoute, c'est juste, d'abord, quand tu commences de, quand j'ai été en Europe la première fois, OK?
Oui.
À l'époque, c'était les Européens qui dominaient le web francophone, on va dire. Ils ont tous été formés chez Jeff Walker. Ils ont ramené la méthode du lancement orchestré. Ils ont commencé à jouer avec ça. Ils ont eu énormément de succès. Et c'était un cercle très fermé. Et c'est très difficile d'entrer, comprends, dans ce cercle-là. Et un des partenaires, donc par exemple, Olivier Roland, tu sais, qui dit, moi, je rêve d'écrire un livre. Donc lui, il rêvait d'écrire un livre. Et moi, j'avais déjà écrit 4 livres à l'époque. Donc, je sais que son next dream est écrire un livre. OK? Et je me dis, OK, je peux y apprendre des trucs, des erreurs, marketing, comment faire la promotion. Je suis pas Dan Brown. Je suis pas, comment ça s'appelle, le Rowlings, là, qui a écrit Harry Potter.
J.K. Rowling.
J.K. Rowling, je cherchais les initiales, mais je peux l'aider. Donc, j'ai dit, hey, si jamais tu veux de l'aide, ça me fait plaisir gratuitement de dire tout ce que j'ai appris. Et en plus, je pourrais relire ton livre si tu veux. Je vais te donner du feedback. Donc, moi, j'ai dit sincèrement parce que ça me rend heureux. Quelques mois après, il revient, il dit « Hey, finalement, j'ai fini mon livre. Voici si tu veux le relire. » Le livre a combien de pages? 700 pages. « Hey, Antoine, je voulais mourir. Okay? » Là, j'étais comme « Oh my God! » C'est pas une brique, là. C'est une brique. Ok. Mais je me dis « Hey, c'est important pour lui. » Ok. Et pourquoi pas? Ok. Donc, je me dis « Ok, je vais le lire. » Donc, je le lis. J'ai envoyé 15 pages de notes, 15 pages de feedback, sincère. Qu'est-ce qui devrait changer? Comment faire le marketing? Des idées pour... Bon, j'ai renvoyé ça, OK? Est-ce que ça m'a pris du temps? Absolument. Regarde Olivier Roland, par contre, si je fais les totales, c'est peut-être, mettons, 500 000 $ qu'il m'a rapporté dans les dernières années, OK? Mais au début, ça rapportait rien et ça se peut qu'il n'aurait jamais accepté de faire ma promotion. Ça aussi, c'était une possibilité. Et ça, il faut que vous soyez très confortable avec, ça se peut très bien que le partenariat ne se solde pas. Sauf que là, c'est là que c'est important. Ma philosophie, si jamais tu gagnes pas une collaboration, voici ce que tu auras gagné, une réputation. Et ça, ça vaut des millions de dollars et des millions de dollars en affaires. Parce que même si la personne n'a pas fait affaire avec toi, mais un jour, elle entend parler de toi, qu'est-ce qu'elle va dire? « Ah, Martin, tu sais, oui, je l'ai déjà rencontré, il a déjà lu mon livre de 700 pages et il m'a envoyé 15 pages de notes. » Imagine que tu as des représentants des ventes, tous tes partenariats qui se sont pas soldés, qui se mettent à raconter une histoire de générosité ou qui se mettent à raconter une histoire de comment tu as essayé de les aider avec leur next dream. Moi, je pense que c'est extrêmement puissant, tu comprends?
C'est sûr. C'est sûr et certain. Puis, Martin, c'est fascinant ce que tu es en train de me dire là. Moi, je voudrais que tu me dises, maintenant, tu fais beaucoup de conférences au niveau américain. Je sais que tu coaches des entreprises. Peux-tu me parler de ton entrée au niveau des States? Est-ce que ça a été similaire à ce que tu viens de nous dire?
Même chose.
Pour le volet francophone. OK.
Ouais, même chose. Même chose, c'est comment est-ce que tu peux apporter de la valeur à ces personnes-là? Donc, d'abord, il a fallu que j'aille dans leur environnement. Donc, où sont ces gens-là? Donc, moi, ils sont pas au Québec. Donc, c'est-à-dire, où sont les leaders qui me font vibrer? Donc, par exemple, moi, à l'époque, j'étais dans le mastermind group de Brendan Burchard. Donc, j'ai commencé à rencontrer une poche d'entrepreneurs-là qui me plaisait. J'ai réalisé que cette poche d'entrepreneurs-là migrait dans une communauté qui s'appelait Mastermind Talk de Jason Gaynard, à laquelle j'appartiens encore, qui est énorme. C'est une des meilleures communautés au monde. Ça fait 5 ans, je crois, que je suis membre. Et de là, les meilleurs web entrepreneurs étaient dans Black Belt. Donc là, j'avais mes cibles de où sont des partenaires potentiels. Ils sont là. Et c'est là qu'ils se tiennent. Et à partir de là, c'est la long game. Donc moi, je suis un grand fan là-dessus de Gary Vaynerchuk, de dire, hey, combien de temps? Le problème, c'est que les gens se disent, on va aller manger ensemble, je vais voir comment qu'on pourrait faire de la business. Mais voyons donc, ça, c'est amateur au bout. Hey, tu comprends ça? Parle-en plus tard, mais d'abord, juste, sois là pour comment je peux t'aider, apprendre à se découvrir, ta famille. Moi, je te le dis, je suis extrêmement en relation. Et ce que j'ai découvert avec les années, c'est que des hommes d'affaires qui vont faire beaucoup de partenariats, c'est énormément du relationnel. C'est pour ça souvent qu'on va dire c'est qui tu connais. C'est pas parce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils ont une relation. Et ça, c'est différent. Il y a des gens qui ne connaissent que du monde, mais ils n'ont pas de profondeur. Donc, ils peuvent pas avoir de partenariat. Et ça a été la même mécanique quand j'ai vu les personnes que je considérais être des portes d'entrée vers le marché américain. J'ai dit « What's their next dream? » C'est quoi leur prochain gros rêve et comment je peux les aider? Je te donne un exemple. Il y a un gars à Toronto qui s'appelle Giovanni Marsico, qui organise le plus gros événement, la plus grosse conférence entrepreneuriale au Canada. Okay? Il y a 3-4 000 personnes qui vont là. Il fait venir les plus gros conférenciers au monde. Donc, moi, je me dis, cette scène-là, ça serait une belle porte d'entrée vers les États-Unis parce que Gio, il connaît tous les gros Américains. Okay? Il est dans Genius Network avec Joe Polish. Donc, je me dis, OK. Et là, l'histoire avec Gio est intéressante. Parce que la première fois que j'ai été à son événement en 2016, après l'avoir rencontré en 2015, parler rapidement avec lui, j'y écris sur Facebook, mais il me réécrit pas. En 2016, je vais à son événement, je suis très touché de son événement, j'y écris après sur Facebook, j'ai dit « Hey, c'était fantastique, c'est un événement incroyable. Si jamais je peux t'aider dans le monde francophone, laisse-moi savoir n'importe quoi, tout ce que tu veux, OK? » Il répond pas. 2017, je vais à l'événement, événement fantastique. J'y écris après, hey, c'était fantastique, incroyable, jamais tu veux jamais du monde de Montréal à Toronto à ton événement, j'ai une audience à Montréal, ça me fera plaisir, laisse-moi savoir, je suis à ton service. Il me répond pas. 2018, il lance une fondation qui veut aider les entrepreneurs qui ont des projets, puis il dit, si vous êtes un entrepreneur qui voulait donner, je monte une fondation qui va s'appeler Archangels Entrepreneurs. Moi, j'y écris, je dis, hey, sur Facebook encore, j'ai dit, Gio, je dis, gars, moi, ça fait 2-3 ans que je vais à ta conférence, j'adore ce que tu fais. Si je pourrais cibler les gens qui sont choisis, ça me fait plaisir, je te donne 5 000. OK? En don. Il me répond pas. Mais moi, ça me fait plaisir, ça me dérange pas. Je suis détaché complètement. Un jour, je lance mon podcast, exactement comme que tu le lances. Contre toute attente, mon podcast passe 3 jours en position numéro 1 mondiale dans la catégorie business. Devant les podcasts des Américains, OK? Donc, évidemment, j'ai utilisé les stratégies marketing, j'ai utilisé ma liste, j'ai utilisé mon audience, mais quand même, les Américains qui me connaissaient dans Mastermind Talk se disent, Chris, même nous autres, on peut pas passer 3 jours-là. Donc, le propriétaire du groupe, Jason Gaynard, fait un post sur la page Facebook, puis il dit, Congratulations, Martin Latulippe, félicitations avec ton podcast, l'école du succès, que je sais pas how the fuck comment prononcer ça. Bon, ça fait 3 jours que t'es là dans la catégorie business. Bravo! Et que là, il prend le screenshot number one, 3 days. Le soir même, je reçois un message Facebook de Giovanni Marsico. Il dit, hey Martin, j'ai vu le post sur Mastermind Talk. Il dit, j'aimerais ça qu'on se parle. Moi, je lis le message, je pars à rire, je dis, hey, j'ai dit, c'est sûr. Mais j'ai dit, as-tu lu les autres messages Facebook? Il dit non, il dit parce qu'on n'était pas amis, j'ai jamais vu tes messages, je vais jamais dans cette catégorie-là Facebook. Et qu'il dit sorry. Mais là, regarde, c'est une leçon très importante, c'est Antoine. Résilience, persévérance, tout ce que je veux, c'est l'aider dans son prochain rêve. Le fait qu'il me réponde pas, je le prends pas comme un rejet, je le prends pas comme, ah, je suis pas bon, ah, je le ferai jamais. Non. Moi, tout ce que je fais, c'est comme, je t'offre mon aide. C'est comme si je te donne un cadeau, si tu le prends pas. Ne dérange pas, je vais continuer à te ramener des cadeaux. Finalement, on se parle, on développe une relation. Je parle pas de business du tout avec lui, mais je lui pose une question. What's your dream? What's the big one? Et il me dit, ben écoute, remplir cette salle-là à Toronto, c'est pas facile. Il dit, si jamais tu peux m'aider avec la vente de billets, ça serait apprécié. J'ai dit, sure, pas de problème, Gio. J'appelle mon adjoint, j'ai dit, Claudine, sors-moi comment ça coûte louer 2 autobus transporteurs à Montréal, Montréal-Toronto, aller-retour. Sors-moi un prix. Donc, regarde bien la logique ici d'abondance et de prospérité avec laquelle j'opère. Okay? Elle me revient, elle dit ça coûte 3 500 l'autobus. Je dis, OK, parfait. Je fais un post Facebook sur ma communauté puis je dis, salut, moi, je m'en vais à Toronto à un événement qui s'appelle Archangel parce qu'un jour, je rêve d'être sur cette scène-là et je veux aider le gars qui organise l'événement. Voici le deal que je vais faire avec vous autres. Achetez votre billet. Moi, je m'occupe du transport. Parce que je me rappelle, c'était quoi ne pas avoir d'argent quand j'ai commencé mon rêve, que je pouvais même pas me rendre à des événements de développement personnel alors que je voulais changer le monde. Donc, moi, là, je m'occupe. Hey, un billet d'avion ou un billet d'autobus, ça vous coûterait 100, 200 piastres. It's on me. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos fesses dans l'autobus. En dedans de, je pense, 30 minutes, on avait vendu, c'était 52 places par autobus, on a vendu 104 billets. J'appelle Gio la semaine d'après, je dis, Gio, est-ce que tu as vu tes bons de commande? Il pleurait. Il dit, même aux États-Unis, il dit, il n'y a jamais personne qui m'a vendu ça. Il dit, comment t'as fait? Je dis, comment j'ai fait? C'est pas important. J'ai dit, est-ce que ça t'aide? C'est tout ce qui compte. Il capotait. OK? Mais j'ai rien demandé après. Il dit, comment tu peux m'aider? Il dit, comment moi je peux t'aider? J'ai dit, écoute, cherche à aller aux États-Unis, je cherche à faire plus de conférences, des grosses scènes éventuellement. Si ça la donne, laisse-moi savoir, mais pas plus. Et un jour, naturellement, on était sur un autobus à Lake Placid, à un événement ensemble de Mastermind Talk. Et il se tourne vers moi, puis il me dit, Martin, il dit, How would you like to be on my stage next year? J'ai dit, Gio, I'd be honored. If it can serve you, it will serve me. No problem. Trust me. It's a dream of mine. Et boom, c'est le même qu'il m'a confirmé que je serais sur scène avec Seth Godin, Elizabeth Gilbert, Lisa Nichols.
Si vous aimez l'hypercroissance, vous serez servi avec le prochain extrait. Philippe-Antoine Defoy, propriétaire de Popeye Québec, avait partagé avec nous la structure qu'il avait suivie en ouvrant une nouvelle succursale Popeye par mois pendant l'année 2013. Vous allez voir, Philippe-Antoine est un bourreau de travail comme j'en ai rarement vu.
À la base, il y a quelques points importants dans le parcours. Moi, je suis un hyper travaillant. Il y a des hommes d'affaires qui pensent beaucoup au lifestyle. Le lifestyle est important. J'ai une vie épanouie, j'ai une famille, j'ai des amis, je voyage. Mais en dehors de ça, il y a une discipline de faire. Je passe pas mes soirées à écouter les vidéos de gens qui tombent en faisant du vélo. Là, je travaille. Tu sais, je suis quelqu'un qui réfléchit à sa business, qui travaille au sein de la business, qui pose des diagnostics, l'améliore constamment. Il n'y a jamais de satisfaction. Ça, c'est un point fondamental. Au niveau de l'hypercroissance et de ce qui s'est passé en 2013, il y a une expression en anglais qui dit « Don't put the cart before the horses ». Ben, c'est probablement ça que j'ai fait. Une fois dedans, je reviens à mon point précédent, l'hyper-travaillant est ressorti puis c'est booké des journées, des semaines, des nuits de travail de façon acharnée pour passer au travers. Puis, ce que j'ai réalisé au travers de ça, c'est que je suis passé d'un chaos désordonné à un chaos ordonné à plus de chaos ordonné. Tu sais, puis c'est difficile de l'expliquer. Il faut que tu sois vraiment dedans. Il y a les grandes théories du domaine des affaires. Mets tes objectifs, fais tes listes de to-do. Quand tu tombes dans un environnement d'hypercroissance où tu doubles la business régulièrement, presque chaque année ou aux deux ans, pour plusieurs années de suite, il n'y a plus rien de ça qui tient. Ça, c'est... Mm-hmm. Les gens qui l'ont fait, pour la plupart, vont dire la même chose. Peut-être que si tu le refais une deuxième, une troisième, une quatrième fois, ça va être différent. Mais quand tu es dans le feu de l'action pour une première fois dans une hyper-croissance, c'est ça. C'est un chaos désordonné que tu finis par ordonner. Une fois qu'il est ordonné, tu as une paix d'esprit. Donc, c'est un peu l'idée de comment que ça s'est passé. Puis aujourd'hui, dans ma business, c'est all about the systems. C'est tout est en fonction des systèmes qu'on met en place pour que les gens suivent les systèmes, peuvent y déroger si ça fait du sens, il n'y a pas de problème, mais on peut améliorer le système, bien entendu. Ça fait partie du commitment, de la game que tout le monde, mais il y a un système qui est mis en place.
Je comprends.
Ce système-là, dans toutes les unités différentes, que ce soit les unités de chacun des magasins, que ce soit l'administration, la comptabilité, les achats, le marketing, etc., etc., le système qui est en place doit être suivi. À un mm-hmm. certain moment, il peut arriver qu'il soit également, qu'il passe d'un chaos désordonné à un chaos ordonné. Ultimement, faut être ordonné, puis c'est des choses qui se passent. Mais fait que je suis capable, tu sais, facilement de revoir dans chacun des départements qu'est-ce qui se passe, puis épauler les gens pour qu'ils reprennent le contrôle.
Dans ce cas-là, moi, j'aimerais ça que tu me dises aussi comment tu l'as fait, cette croissance-là, année après année. Parce que, bon, t'arrives, t'as plusieurs succursales que tu ouvres. T'en as maintenant à ce jour, on fait le podcast 18 juin 2020, t'as 28 succursales à ce jour. T'as aussi une présence qui est assez forte en ligne. Mais si on revient à tes succursales, si je me trompe pas, Philippe-Antoine, c'était des acquisitions que tu faisais. C'était des acquisitions de magasins Popeye qui existaient déjà. Puis, bon, à un certain moment donné, comme tu le dis, tu m'as parlé de système. Il y a dû avoir des systèmes qui se sont installés un petit peu dans ta tête quand tu faisais tes acquisitions. Puis moi, c'est ça que j'aimerais que tu me dises. Qu'est-ce que tu allais acheter? Comment tu étais capable de reconnaître une bonne opportunité d'acquisition que tu pouvais amener dans ton portfolio?
Exact. Donc, pour clarifier, dans le fond, sur Sur les 28 succursales, il y a deux blocs de trois succursales qui ont été acquis. Et puis, il y a 22 magasins qui ont été ouverts et développés à même le système en place. Au niveau des cibles d'acquisition, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Par mon modèle d'affaires, je suis pas nécessairement une personne qui est très friand des acquisitions. J'ai fait des acquisitions au sein du groupe Popeye Supplément. Donc, il y avait des gens, des franchisés dans certaines régions qui désiraient réorienter leur carrière. Fait que j'ai pris ces occasions-là, puis j'en ai profité. Mais d'aller acheter, dans le fond, un compétiteur différent de nous, pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait. Mais les choses qui sont importantes pour moi, c'est bien entendu, c'est l'emplacement, le chiffre d'affaires, la clientèle, l'équipe en place. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très, très, très importantes. Également, c'est sûr de voir si moi, j'ai une présence ou non dans ce secteur-là. Si j'ai pas de présence, ben c'est sûr et certain que la cible acquisitive devient intéressante. D'acheter un compétiteur où on est nez à nez ou qu'on est un l'autre bord de la rue, moi, je crois que avec l'excellence de mon système, puis avec le temps, avec l'énergie, moi, je vais finir par opérer puis avoir une business qui va être profitable. Je souhaite que la personne de l'autre côté de la rue ait la même chose, puis qu'on puisse faire grossir le marché les deux ensemble, puis qu'on puisse vivre les deux, puis qu'on puisse prospérer. Donc, au niveau des acquisitions, c'est ça. Au niveau des emplacements, mon background dans les affaires et dans la vente précédemment m'a amené à voyager autant au Canada, aux États-Unis, qu'au Québec, que dans les provinces atlantiques. Donc, j'ai une bonne connaissance du marché, j'ai une bonne connaissance de la géographie, de l'économie, pas mal pan-canadien. Même, je te dirais, États-Unis également. Tu sais, j'ai eu un parcours qui m'a amené à plusieurs endroits. Donc, au niveau des ouvertures, il y en a qui étaient logiques, tu sais, d'aller dans les grands centres, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Il y en a d'autres qui étaient moins faciles, mais justement avec une connaissance du marché, puis les habitudes d'achat, les secteurs, tout ça, ça a fait du sens.
Puis, comment tu es capable de repérer? Parce que là, tu l'as fait 28 fois. On termine le 60e épisode de Hypercroissance en ressortant l'entretien avec Nicolas Ray. L'actuel PDG de MREX a tout sauf une histoire normale. En ayant été sans-abri deux fois, Nicolas nous raconte les montagnes russes qu'il a connues dans la création de ses entreprises. Vous allez voir, Nicolas est un homme d'affaires qui a une persévérance et une résilience exceptionnelles. Tu as des ambitions d'ouvrir, ou du moins, tu as déjà ouvert des bureaux dans certaines villes, tu as des ambitions d'ouvrir des bureaux dans certains pays.
Oui, en fait, l'agence de joueurs de hockey avait un bureau à Québec. On avait peut-être Québec, Montréal, Boston et Halifax. Puis, je te dirais, en date de peut-être 14 mois, on représentait presque, d'après moi, 75, de mémoire, 75 à 80 joueurs qui étaient dans le géant majeur et qui étaient dans la Ligue américaine, la East Coast, les choix de repêchage de la Ligue nationale. Et l'autre entreprise, l'entreprise de santé préventive et performance humaine, on s'occupait dans le fond surtout de trois sortes de clientèle, des athlètes de haut niveau, des athlètes juniors qui allaient devenir de haut niveau, des PDG d'entreprise qui sont ultimement des athlètes de haut niveau. Les études que j'avais faites à Harvard, c'était dans le fond la médecine préventive et la psychologie de la santé dans le but de s'occuper de PDG d'entreprise des Fortune 500 des États-Unis, comme c'était des athlètes de haut niveau. Fait que c'était ça l'étude que j'avais faite à ce moment-là. Et l'autre clientèle, ben c'est des gens qui souffraient, exemple, de maladies chroniques, de douleurs chroniques. On avait des contrats d'ailleurs avec la Capital Assurance, des gens qui étaient en arrêt de travail nous les envoyaient, parce qu'on avait une approche holistique qui venait regarder vraiment tout le côté corporel, alimentaire et même psychologique. On essayait de venir aider ces gens-là avec des programmes de coaching, des programmes d'intervention et tout ça. Avec ça, ben j'avais bâti des espèces de... Moi, j'appelle ça un genre d'hybride entre un gym et une clinique médicale préventive. Donc, on en avait un à Québec, on a ouvert un à Montréal, même s'il n'a pas duré longtemps. Il a été ouvert, je pense, un mois. Puis, on était en train d'ouvrir un à Paris, puis un autre à Sao Paulo, Brésil.
OK, puis là, je pense que c'est là qu'on va en venir. J'écoutais un podcast que tu faisais il y a quelques semaines, quelques mois de ça avec Olivier Lambert. puis que tu disais que la business allait bien, tu faisais des millions de dollars en revenus, puis littéralement, du jour au lendemain, t'es passé, puis je sais que les mots sont forts, mais c'était ça que j'ai entendu, t'es passé sans abri. Là, on parle d'hypercroissance, mais là, clairement, il y a eu un enjeu, il y a eu une décroissance.
Oh oui, hypercroissance, on s'entend que ça a été une hypercroissance, disons, de 2006 à 2010. Là. On était rendu l'agence de joueurs de hockey avec 4 bureaux. Donc, on était dans 2 pays. On était en train même de signer nos premiers joueurs européens. Donc, des joueurs juniors qui étaient des espoirs NHL. Ce qui était jamais vu pour une petite agence start-up. Là. Tu sais, c'est, le monde des agents de joueurs de hockey, c'est un monde hyper fermé, hyper high level. C'est impossible de rentrer là-dedans. C'est comme rentrer dans la mafia. Tu sais, c'est comme si tu partais demain matin une nouvelle famille de mafia. Ça se fait pas. Je veux dire, c'est hyper difficile. Donc, ça, j'avais scalé ça entre, mettons, 2008. J'avais parti ça en 2008, puis déjà en 2010, c'était rendu à ce niveau-là. Fait que gros max 2 ans. L'entreprise de santé, j'avais fondé en 2006, donc en 2010, déjà 4 ans. On était en train d'ouvrir à Montréal. On avait un centre à Saint-Georges, Québec, Montréal. On voulait ouvrir à Paris, Sao Paulo. On était déjà en train de... On était sur le bord de signer les baux, d'ailleurs. Et là, en l'espace de on va dire, fin 2010... Ça s'est mis à mal aller vers...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, un paquet d'affaires, retard de construction, dépassement de coûts, puis là, t'es pogné à payer du monde sur ton payroll qui rapporte absolument rien, mais si tu les payes pas, tu les perds. Puis là, c'est du monde difficile à recruter parce que là, on a des kinésiologues spécialisés, des nutritionnistes, des ostéos, un paquet de monde qui ont tous des plein de diplômes, durs à aller chercher. Et là, t'as pas de revenus qui rentrent. Et là, à un moment donné, c'est exponentiel, tu sais, je veux dire... Tu dépasses les coûts de 100 000 de construction, tu perds 200 000 de revenus parce que ton centre n'est pas ouvert. En plus, tu payes 300 000 de salaire dans le vide. Tu sais, ça va vite, là. Des 500 000, des millions, là, ça va très, très vite rendu à ces grosseurs-là. Puis là, t'es en train d'essayer d'éteindre un feu à une place. Mais après ça, il y a un feu qui part à l'autre place. Mais là, t'es pas là pour t'en occuper. Un employé clé quitte le bateau. Et là, ça dégringole. Je pensais être bien entouré. J'étais pas bien entouré d'un point de vue d'associé, d'un point de vue professionnel qui était autour de nous. Et on m'a laissé.
Parle-moi de ça.
On m'a laissé avec le ballon. C'est correct. C'était moi qui étais le PDG, mais je pensais que j'avais de l'aide. Je savais que j'étais jeune. Je savais que j'étais pas équipé pour gérer ça. Je pensais que j'avais des gens en place pour m'aider à le faire. C'était faux. Et dès que ça s'est mis à mal aller, ben les gens sont partis, ils m'ont laissé avec la patate chaude, c'est comme ben je me suis ramassé avec le dernier. Là, la musique elle a arrêté de jouer, puis c'est moi qui avais la patate chaude puis chat.
À ce moment-là, combien ça ressemble à quoi, mettons, la business en termes de nombre d'employés, revenus globalement, juste pour être certain, ça ressemble à quoi? Mettons, avant que tout ça commence à dégringoler.
Globalement, on était tout ça, à peu près ça fluctuait là, en dépendant des saisons, là, mais tu sais, entre un 70 à 75 employés. Pour les deux entreprises, les revenus, on était dans les millions. Là. Écoute, je m'en occupais même plus. Là, genre, on avait un contrôleur financier qui gérait tout ça. C'était tellement pas ma partie, l'administration, la gestion, ouais. Que j'avais tout donné. J'avais vendu une part de ma business à un entrepreneur, un homme d'affaires. Okay. Tout lui a mis en place sa structure, contrôleur financier, avocat, comptable, tout ça. Fait que moi, je m'en étais comme lavé les mains entièrement et j'étais juste parti sur le développement. Qui était en fait une erreur que finalement je n'aurais pas répété par la suite dans ma carrière entrepreneuriale. J'ai beaucoup fait confiance, délaissé au lieu de déléguer finalement. Et en dedans de 6 mois, ben on est parti de ça à 0 revenu, 0 employé. Mettons 8 mois, 8 à 10 mois. Donc à l'été 2010, l'entreprise elle avait plus de revenus, elle avait plus d'employés. Là, j'étais rendu le dernier employé. On était endetté par-dessus la tête. On devait, je sais pas moi, 1 million à Desjardins. On devait, tu sais, pour des ouvertures de centres qui ne se sont pas faites finalement. Il a fallu revendre les équipements. Ça a été un moment extrêmement humiliant, extrêmement difficile. Écoute, c'est un moment que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Puis, c'est ça. Ça a duré à peu près 8 mois. Ouais, 8 à 10 mois.
Puis là, c'est pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Nick, en ce moment, t'es quelqu'un qui a énormément de connaissances et de reconnaissances dans le milieu de l'immobilier multilogement. Donc, faut le dire, tu t'es retroussé les manches et aujourd'hui, tes affaires vont bien. Mais là, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais.
Entre le moment que tu peux pas être plus bas, puis où est-ce que t'es aujourd'hui, il y a dû avoir des déclics. Il y a dû avoir un momentum que t'as été capable de reprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nick Ray au moment où est-ce que tu te retrouves seul d'une organisation qui, auparavant, tu avais construit puis tu avais amené à des millions de revenus, 75 employés. C'est du stock, là.
Ah, c'est incroyablement décourageant. Tu sais, honnêtement, là, je suis une personne positive. Le verre toujours à moitié rempli, mais tu sais, je te cacherai pas que je pensais au suicide à ce moment-là. Là. J'y pensais, je l'avais pas fait, là. Mais tu sais, c'était comme. Bon, tu sais, c'est une option à penser. Là. Tu sais, rendu là, c'est comme t'as perdu la face devant tout le monde. Le monde te court après pour de l'argent. Toi-même, tu sais, t'as comme. Tu sais, mettre dehors 75 employés un par un, quand c'est toi qui les as engagés de former, là, c'est l'affaire. C'est tellement triste. Là. Notre centre qu'on venait d'ouvrir, que ça faisait un mois qui était un rêve que je caressais depuis longtemps. Écoute, mon associé, là, je sais pas s'il a fait ça pour être pour être chien avec moi ou juste qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a fait. Il a fallu que je monte là-bas avec des jobbers puis un trailer. Là. J'ai démonté le centre. Là. Ça a été une des journées les plus dures de ma vie, honnêtement. Là. J'avais le goût de me cacher dans un trou. Je sais même pas comment j'ai fait pour me lever ce matin-là. Il a fallu que j'aille tout démonter le centre par moi-même, monter ça, rentrer ça dans un trailer, ramener ça à l'encan pour essayer de payer une couple de créanciers. Ça a été vraiment difficile. Je me suis ramassé sans abri cet été-là. Je suis allé vivre chez les frères de la Petite Croix dans Charlevoix, qui est un monastère, même si je suis zéro religieux, parce qu'ils t'hébergent gratuitement si tu fais la vaisselle puis tu fais des travaux autour du monastère. Puis à un moment donné, si jamais un jour tu as de l'argent, ils t'invitent à refaire un don, tu sais, pour les aider. C'est en silence d'ailleurs, donc t'as pas le droit de parler. Fait que j'ai passé plusieurs semaines en silence total. Ça a été vraiment le bas du bas du bas. Là. Je peux considérer que j'étais en enfer à ce moment-là. Là.
Combien de temps que ça a duré?
Pas duré longtemps. Mettons, l'enfer, on va dire, a duré 2-3 mois.
Puis, c'était pendant l'été?
Ouais, c'était pendant l'été. Puis je me suis laissé de l'espace. J'ai arrêté de me juger. J'ai dormi beaucoup. J'ai marché beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai médité. J'ai lu. Puis à un moment donné, mon énergie est comme revenue. T'sais, parce qu'il faut dire qu'en 15 ans d'affaires, en réalité, là, tout ça et en tout et partout, ça a peut-être duré 10 mois. Tu sais, en 15 ans d'affaires, 14 ans et 2 mois de succès, mais 10 mois d'échec. Ça t'amène une immense humilité, puis un immense respect envers le succès, envers la vie, tout simplement. Là. Tu sais, à chaque jour, je prends rien pour acquis. Je prends absolument rien pour acquis parce que je sais que c'est fragile. Tu sais, autant qu'on oublie des fois que la vie, c'est fragile. Quand quelqu'un meurt autour de nous de manière précoce, comme mon père d'ailleurs, qui est décédé il y a presque 3 ans, jour pour jour, de manière extrêmement précoce, autant que cet événement-là, ça t'amène d'un à apprécier vraiment tout ce que t'as, puis tout ce que t'es, puis les gens autour de toi, mais ça t'amène une immense humilité. Puis c'est d'ailleurs drôle, des fois, les gens, parce que j'ai une estime de soi extrêmement forte, vont avoir l'impression des fois que je suis peut-être arrogant ou un peu trop confiant, puis pourtant, c'est tout le contraire. Mon niveau d'humilité, là, écoute, je pense pas parce que je l'ai travaillé. J'ai pas eu le choix.
Wow. J'espère que les nouveaux extraits partagés aujourd'hui vous donneront envie d'aller écouter les différents épisodes mentionnés. Encore une fois, si vous aimeriez écouter les épisodes au complet, sachez que je faisais mention des entretiens 29, 33 et 37. Également, on a lancé nos nouveaux médias sociaux pour hypercroissance en créant des pages totalement séparées à G7 Media. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram afin de voir de courts extraits vidéo de tous nos podcasts depuis le début. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.